I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut Rokaya.
Salut Grace.
Salut les auditorices.
Vous trouverez la suite de Kif Taras et les nouveaux épisodes à écouter sur votre plateforme habituelle de podcast.
Faites simplement une nouvelle recherche avec le titre Kif Taras chez Pseudo Radio et abonnez-vous à ce fil.
Bien sûr, les quatre premières saisons des épisodes de Kif Taras resteront toujours disponibles chez Binge Audio.
Merci pour votre écoute précieuse
et à bientôt.
Bonjour Rokaya.
Bonjour Grace.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kif Taras, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales.
Ici, comme d'habitude, on parle d'arabes, d'asiatiques, de blancs, de roms, de noirs, de musulmans, de juifs, tout ça sans complexe.
Aujourd'hui dans Kif Taras, on va plonger à nouveau dans notre réflexion autour de l'appropriation culturelle. On a abordé le concept avec Maboula Soumaoro dans notre épisode 23 et discuté de l'appropriation des corps et de leurs esthétiques avec Jennifer Padjemi dans l'épisode 25. Notre conversation du jour s'intéressera à l'appropriation culturelle dans la création musicale. C'est un vaste et épineux sujet. Qu'est-ce que ça veut dire l'appropriation culturelle dans la musique? Qu'est-ce qui relève de l'appréciation? Et qu'est-ce qui tombe dans l'appropriation dans un domaine qui se nourrit continuellement d'inspirations diverses et variées? À qui l'appropriation culturelle profite-t-elle dans la musique? Pour rappel, l'appropriation culturelle implique l'adoption d'idées, de pratiques ou d'éléments distinctifs d'un groupe par un autre, et cette notion est inséparable de celle de domination, d'asymétrie et d'inégalité.
Nous avons le plaisir de recevoir Bintou Seysila pour nous livrer son expertise quant à cette question épineuse. Bintou, tu es donc productrice de musique à la tête du label Silart Records, fondé en 1981 par ton père Ibrahima Sori Silla. Dans le catalogue prestigieux de cette maison de disques, il y a de grands noms tels que Salif Keita, Alpha Blondie, Africando, Oumou Sangaré ou encore Ismaël Lo, entre nombreux autres. Tu es aussi DJ et co-animatrice de l'émission Piment sur Radio Nova. Préparée d'ailleurs pour le 2 avril 2001, la sortie du livre de Piment qui s'appelle Le Dérangeur, petit lexique en voie de décolonisation aux éditions Hors d'atteinte. Alors ça, ça s'invente pas.
Merci pour l'introduction. Salut Rokaya, salut Grace.
Merci
pour l'invitation.
Bah, c'est un plaisir, ça fait un moment qu'on pensait à t'inviter, donc c'est le moment ou jamais.
Bah ouais, il y a plein de choses à dire sur ce sujet fondamental et qui fait en ce moment l'actualité en plus.
Alors, dans Kif Taras, on a un tout petit rituel qui est de demander à nos invités si elles se situent, si il ou elle se situe sur le plan racial. Par exemple, Rokaya est une femme noire, moi je suis une femme asiatique. Est-ce que toi, Bintou, tu te définis et si oui, comment?
Moi, je me définis comme une femme noire en France, dans un contexte français. Mais mon identité n'est pas d'être une femme noire. Je suis une femme peul, djarinké, soninké, ça c'est ma culture, c'est mon éducation. Alors là, je suis définie d'abord par une culture que d'abord par une race, mais dans un contexte racial, évidemment, je suis une femme noire d'origine africaine.
Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu as réalisé que tu étais une femme noire en France?
Bah, toujours, toujours. En vrai, oui, de toujours. Je pense que ça, c'est l'expérience avec autrui, en fait, avec l'autre, qui fait que tu te rends compte de la différence et qu'on te renvoie à ta différence et que tu te rends compte. Mais bon, quand t'es noire et que tu grandis dans une famille noire, bah, tu es juste une personne, en fait. C'est, tu vois. Après, les voyages aussi font que tu te rends compte. Le simple fait même d'aller en Afrique, moi, j'ai eu la chance de beaucoup voyager en Afrique de l'Ouest pendant les vacances, etc., avec mes parents. Et de là-bas, on m'appelait aussi l'enfant de France. Donc, il y a cette espèce de dichotomie entre être quelqu'un dans un espace racial et être quelqu'un dans un espace où la race n'est pas nécessairement ce qui est en premier en Afrique, mais plutôt la culture ou le fait d'immigrer, d'être un enfant d'immigré. Donc, il y a tout ça ensemble. C'est tout ça qui fait mon identité, en réalité.
Ouais, une forme, une addition, une complexité. Merci de nous en faire part.
On va sauter tout de suite au cœur du sujet. Donc, quand on parle de musique et d'appropriation illicite, on pense facilement au plagiat, c'est-à-dire à la contrefaçon. Donc, on va parler d'un cas qui date d'il y a peu et dont vous vous souvenez très certainement. Alors en 2013 sort Blurred Lines, donc c'est cet extrait de Robin Thicke featuring Pharrell Williams, c'est un tube planétaire. En 2015, le tribunal de Los Angeles condamne les deux artistes à verser plus de 5 millions de dollars ainsi que 50% des recettes à venir aux héritiers de Marvin Gaye pour plagiat de sa chanson Got to Give It Up, qui est c'est une décision qui a été confirmée en avril, confirmée en appel, pardon, en 2018. Alors, ce procès a permis aux héritiers de Marvin Gaye de défendre ses droits de propriété intellectuelle attachés à ses œuvres musicales et aux reproductions de ses œuvres. Alors, mais qu'en est-il quand il n'y a pas de droit reconnu, en tout cas juridiquement pour une création qui peut être défendue devant les tribunaux, comme un style musical dans son ensemble, une sonorité, une histoire de lutte qui accompagne les créations musicales pour exprimer ses luttes? C'est la zone grise de l'appropriation culturelle. Toi, en tant que productrice, Bintou, j'imagine que tu te réjouis hein, de, la défense de ses droits ou...
De la défaite de Robin Thicke.
toi qui as à cœur de préserver le patrimoine de ton label Silat Records et des artistes qu'il représente, qu'est-ce que peut impliquer une décision juridique comme celle-ci?
Alors en fait, ce qui est intéressant avec cette décision juridique, c'est qu'en fait, elle est assez inédite. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce qui a été condamné, c'est pas le plagiat de l'œuvre originale Got to Give It Up de Marvin Gaye qui est sortie en 78, mais dans l'intitulé juridique, en gros, il y a écrit que ce qui a été plagié, c'est un univers musical. Et ça, c'est quelque chose d'inédit qui n'avait jamais été auparavant, en tout cas à ma connaissance, dit dans les tribunaux en ce qui concerne la propriété intellectuelle. Maintenant, cette histoire en particulier, moi je la trouve un peu bancale et je dirais pas que je pourrais m'en réjouir parce qu'en fait c'est quand même une chanson qui a été composée par Pharrell Williams et Pharrell Williams est un afro-américain. Donc si on parle d'appropriation culturelle comme tu le disais au tout début, on parle quand même de rapports de domination sur des cultures qui ont été dominées et qui sont capitalisées encore aujourd'hui par les populations qui ont dominé ces cultures. En l'occurrence ici, pour moi je peux pas dire que Pharrell Williams ça fait de l'appropriation culturelle sur une œuvre de Marvin Gaye parce qu'il est lui-même afro-américain et que c'est son héritage culturel à lui. Peut-être pour le cas de Robin Thicke, mais là, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que ce qui a été jugé, c'est pas la question de l'héritage musical ou de l'appropriation culturelle, mais du plagiat. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est les enfants de Marvin Gaye qui sont allés porter plainte et revendiquer les droits de cette chanson. Ce que j'ai envie de dire ici, c'est qu'on a, pour moi, le strict sensu juridique du plagiat. Donc ça, c'est quelque chose qui existe juridiquement. Le plagiat, c'est quand on recopie une œuvre originale. Qu'est-ce que c'est qu'une œuvre originale dans la musique? C'est la mélodie, l'harmonie, le rythme. Les trois ensemble font qu'on a une œuvre originale qui porte l'empreinte de la personnalité de l'artiste. Et donc ça, c'est d'une certaine façon ancré, c'est défini, c'est une propriété intellectuelle, voilà, ça appartient à quelqu'un. Et donc si quelqu'un recopie, du coup, sans demander l'avis du propriétaire de l'œuvre, ça devient du plagiat en fait, et ou de la contrefaçon. Du coup, s'il y a un sample qui est le truc est un peu déformé, bidulé, etc. machin. Ici, pour moi, la question de l'appropriation, elle est, comme je disais, pour moi, c'est pas vraiment une question d'appropriation culturelle, donc c'est pas grave à la limite. Ça, la justice peut régler ce problème-là. Là où il y a un problème, c'est quand justement la justice ne peut pas trancher sur des problèmes d'appropriation, de contrefaçon. Alors, le terme de contrefaçon, c'est un terme aussi juridique, donc du coup, c'est pas une contrefaçon. Et c'est là où les sociologues, les chercheurs ont apposé le terme d'appropriation culturelle, parce que le terme d'appropriation culturelle, c'est un concept quand même qui est sociologique, qui vient des sciences sociales américaines. Donc c'est pas un terme juridique, c'est d'ailleurs un terme qui fait débat en réalité, hein, même encore aujourd'hui. Il y a des gens qui ne savent pas ce que ça veut dire, et il y a des gens même qui débattent en fait sur ce que c'est que l'appropriation culturelle et qui même disent que ça n'existe pas en réalité.
Oui, c'est un terme qui fait beaucoup, beaucoup débat, et en particulier en France ces dernières années, où effectivement on sent que ça pique un certain nombre de personnes et d'intellectuels. Alors quand on parle d'appropriation culturelle en musique, on ne veut évidemment pas dire que vous ne pouvez pas écouter de la musique dite classique si vous n'êtes pas né du temps de Mozart ou si vous n'êtes pas autrichien, ou que vous ne pouvez pas écouter ce qu'on appelle la musique noire hein, ou la black music si vous n'êtes pas noir, et encore que c'est un concept qu'on peut encore définir, sur lequel on pourrait on pourrait revenir, mais vous pouvez en faire reconnaître votre inspiration. Alors, effectivement, est-ce que toi, Bintou, tu as une définition du coup de ce qu'on appelle l'appropriation culturelle en musique ?
Franchement, je vais te dire la vérité, moi, c'est quelque... C'est... Je dirais pas que c'est... Pour moi, c'est... C'est-à-dire, c'est débattable à l'infini, en fait. On peut pas avoir une et unique définition de ça. Maintenant, moi, je suis pas chercheuse, je suis pas spécialiste de l'appropriation culturelle. Mon expertise, elle vient du terrain, en fait. Elle vient de mon travail, qui est que je suis productrice de musique et que je gère un catalogue de musique, donc d'œuvres originales, et que comment je fais pour défendre, en fait, ces œuvres-là, comment je fais pour défendre les musiques africaines dans leur diversité, comment je fais pour faire en sorte que ces musiques-là soient définies d'abord par les premiers concernés et qu'on n'appose pas des termes comme world music ou comme afro jazz, etc. Ça, c'est mon rôle et c'est sur quoi j'ai au quotidien un travail à faire. Et c'est sur quoi peut-être justement mon travail est difficile parce que pour moi, quand on parle d'appropriation culturelle, la première des choses, c'est qu'en fait, déjà, je pense que si la question est sensible, c'est parce qu'en fait, on parle d'art. On parle d'artistique, on parle de culture. Et que donc, la culture, le propre de la culture, le propre de l'art, c'est de circuler, c'est d'être emprunté, pas approprié, tu vois, c'est emprunté. Et que dans un monde capitaliste, en fait, dans un monde avec un legs du colonialisme européen, dans un monde où la culture est aussi victime de prédation capitaliste, bah, la musique l'est aussi, en fait. La musique devient une marchandise, tout simplement. Et donc, comme elle devient une marchandise, bah, tout le monde peut s'approprier, et ceux qui peuvent s'approprier, c'est ceux qui ont les capitaux, ceux qui ont l'argent, c'est ceux qui ont le pouvoir économique. Et en général, ce pouvoir économique, il se double d'une suprématie qui est aussi culturelle. Et c'est là où le bât blesse, parce que ceux qui ont le pouvoir économique ont aussi une culture, ont une suprématie culturelle, on sont dans toutes les institutions culturelles. Et ceux qui créent les cultures d'à côté, les contre-cultures ou les cultures qui sont issues des personnes qui sont dominées, n'ont pas accès, en fait, à l'institutionnalisation de leur culture, à la médiatisation de leur culture. Et en même temps, leurs cultures peuvent être pillées. C'est ça, en fait, qui pose cette espèce de hiatus, en fait, entre on crée une culture parce qu'on est à la marge, et donc c'est une culture de la marge, une culture de la résilience, une culture des dominés, et qu'en plus, le récit de domination, il est aussi fait sur le fait de dénigrer nos cultures. c'est là où il y a encore une troisième couche. C'est-à-dire que ces cultures sont censées être des sous-cultures, sont censées être des cultures de gens inférieurs, de cultures pas civilisées, etc., etc. Mais ces mêmes cultures qui sont pas civilisées, etc., ceux qui arrivent à capitaliser dessus sont ceux qui ont déjà tous les pouvoirs et ceux qui dominent.
Et qui d'ailleurs, à partir du moment où ils les appréhendent, elles deviennent des cultures
pop, voilà, mainstream.
C'est-à-dire que tout d'un coup, on leur octroie le label de culture dès lors qu'elles sont pratiquées par des gens qui ont le pouvoir. Et donc la question, c'est vraiment la question du pouvoir. C'est pas tant la question de la qualité artistique et de la compétence, exactement, mais c'est la question de la capacité à imposer sa culture comme étant une culture et dont on peut tirer des revenus également, quoi.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Comment devenir un ou une meilleure alliée de la lutte antiraciste? Comment se confronter à ses privilèges en tant que personne blanche? Chez Binge Audio Édition, on sort Mécanique du privilège blanc, un livre d'éducation antiraciste pour proposer des outils concrets à toute personne qui souhaite se confronter à ses privilèges. Le livre est signé Estelle Depri, qui anime depuis des années la page Instagram Semblant de Rien, sur laquelle elle produit du contenu antiraciste qui permet à chacun et chacune de devenir un meilleur allié. Vous êtes déjà plus de 2000 à avoir précommandé. Grâce à vous, on a dépassé notre objectif. Il ne vous reste que quelques jours pour commander vous aussi votre exemplaire. Rendez-vous sur ulule.com/mécanique-du-privilège-blanc ou sur le compte Instagram de Binge Audio Édition.
t'as mentionné le mot emprunt ou appréciation. Enfin, c'est, l'emprunt, c'est super quand on est à égal, égaux.
Okay, ouais.
C'est-à-dire que tu me prêtes, je te prête, c'est super. Mais lorsque il y a une asymétrie, justement, on parlait de pouvoir dans ces échanges, en réalité, il n'y a pas d'ascenseur de retour.
Non.
C'est-à-dire que ça va que dans un sens.
Non.
Et je voudrais qu'on écoute un extrait d'une musique qui va vous parler. Alors vous l'avez reconnu peut-être car c'est un titre qui a été le générique de Do the Right Thing, donc c'est Public Enemy qui chante Fight the Power en 89. Et donc si vous n'avez pas reconnu les paroles, il dit Elvis était un héros pour beaucoup, mais pour moi c'est juste un raciste. Et il dit donc lui et John Wayne fuck him, cause I'm black and I'm proud. Donc ça c'est une référence dans le cinéma, mais aussi dans la musique, le
Bien
fait
sûr.
De s'approprier. Donc on parle de Elvis parce que Elvis c'est Elvis Presley, c'est donc un symbole américain,
le soi-disant king du rock.
Voilà.
Voilà, mais alors ça c'est vraiment l'histoire des Américains et l'histoire des Américains et des Américains noirs en fait, c'est que ils ont déjà une connaissance de leur culture, de leur héritage culturel depuis le blues, le jazz, le rock, même s'il y a des cultures qui sont, comme on dit, whitewashed, qui sont blanchies, comme le rock, comme la house, comme la techno, qui sont comme le punk, qui sont des cultures à la base qui ont été créées par des Afro-Américains, en fait, et qui sont aujourd'hui, on a l'impression, qui sont des cultures blanches, en fait. Donc, qui sont passées par tout ce schéma de processus d'appropriation culturelle, de popisation, de mainstreamisation, et du coup, même, on leur a enlevé toute leur essence, en réalité, jusqu'à ce que ça devienne presque boring. Je veux dire, t'écoutes du jazz aujourd'hui, bon, tu vois, j'ai envie de dire, c'est pas le jazz des années 30, des années 40, même s'il y a un renouveau et que ça reste encore une culture noire, etc. Mais ce que dit ces paroles de Public Enemy, c'est déjà le fait que ces artistes-là savent quelle est leur culture. Parce que pour pouvoir dire qu'on s'approprie une culture, il faut déjà avoir conscience de sa culture. Il y a ce truc-là aussi. Ça, c'est quelque chose sur lequel moi, par exemple, au quotidien, dans le travail des musiques africaines, il y a aussi une méconnaissance de notre histoire, de nos cultures musicales. Quand on a une méconnaissance aussi de sa culture musicale, c'est beaucoup plus facile aussi de se la faire piller et de se la faire voler. Combien de gens aujourd'hui te diront que la house, le punk ou le rock sont des musiques de blancs ou sont des musiques qui ont été créées par des blancs, alors qu'en réalité, non. Après, moi, ce que... Là, il y a des limites dans cette question de l'appropriation culturelle. Et là où je trouve ça un peu moins intéressant, c'est même le fait de dire oui, ça a été créé par des Blancs, ça a été créé par des Noirs, parce que bon, l'histoire un peu de l'ethnogénèse, de qui a créé, quelle ethnie, quelle race a créé, bon, c'est pas important en soi. Ce qui est important, c'est qui capitalise dessus, qui en vit. Et là, on peut commencer à parler en fait, d'argent, d'industrie, de médiatisation, d'institutions, parce que l'art, le propre de l'art, c'est de circuler, etc. Mais maintenant, dans un système capitaliste, c'est qui se fait de la thune sur ça.
Parce que tout à l'heure,
thune, c'est pas juste pour s'enrichir. Cette thune est importante parce que on parle de populations qui sont déjà à la marge économiquement. Donc, si ce qu'ils sont et leur culture peuvent au moins leur permettre, tu vois,
de subsister,
d'accomplir des choses, de créer des théâtres, d'avoir des concerts, de faire des festivals, d'avoir leur vision de l'art, de la musique, etc. Bah, c'est quand même important, j'ai envie de dire. Enfin, merci, quoi. Tu vois,
et puis la question de l'emprunt, enfin, pour en revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est important de dire qu'on emprunte qu'à une personne avec qui on a un rapport qui nous permet d'être dans un quelque chose d'égalitaire. Parce qu'en fait, si on emprunte à quelqu'un qui peut pas dire non, bah, c'est plus un emprunt. C'est-à-dire que c'est ça aussi.
Ça s'appelle du viol, ça s'appelle du piège, ça s'appelle du colonialisme.
C'est-à-dire que oui, c'est ça. On, à partir du moment où la personne n'a pas la capacité simplement déjà à constater l'emprunt et à le refuser ou éventuellement à réclamer tout simplement d'être un crédit, c'est plus de l'emprunt.
C'est pour ça que je parle de conscientisation, d'avoir conscience de sa culture. C'est pour ça que les Afro-Américains, c'est particulier parce qu'ils ont conscience quand même de leur culture. Ils savent en fait leur culture. Ils ont une conscience de leur héritage culturel, musical. Ce que je pense qui n'est pas le cas en France, par exemple.
Donc le cas de
la France.
Ouais.
Ou moins. Je pense qu'en France, on a moins cette capacité, cette connaissance de nos cultures musicales. Que y a une forme, j'aime pas le terme d'aliénation, mais il y a une forme quand même de de complexe d'infériorité sur nos cultures musicales. Après, dernièrement, on a vu par exemple que dans le rap, le fait qu'il y a eu tout ce courant afro, etc., les gens étaient étonnés, genre ah, c'est un truc de fou, il y a l'afro-trap, etc. Machin. Mais en fait, on ne devrait même pas être étonné du fait que des gens qui ont grandi avec des musiques africaines puissent se réapproprier donc, ce qui est leur culture et l'insérer dans leur culture française, entre guillemets, tu vois. C'est ce que les Américains font quand ils samplent, quand Jay-Z et Kanye West, ils samplent du Otis Redding ou du Nina Simone, personne s'offusque en disant « Ah, c'est un truc de fou, ils samplent Nina Simone !» Je veux dire, nous, ça devrait être pareil. Si on sample demain du Koffi Olomidé ou du Kassav, bah, en tant que Noir de France, avec notre histoire spécifique de la Caraïbe francophone et de l'Afrique subsaharienne, bah, je veux dire, y a rien de choquant. Et d'ailleurs, ça a été fait, hein. Y a eu des mouvements comme le R&B, etc., qui ont repris, en fait, des courants musicaux de leur héritage, en fait.
Sauf que quand tu cites Kassav à côté de Nina Simone, tu vois que le niveau de reconnaissance n'est pas le même. C'est-à-dire que Nina Simone, elle appartient au patrimoine musical international et elle est reconnue comme étant une grande artiste, y compris par les populations majoritaires. Là où effectivement Kassav, malgré leurs 40 ans, malgré le fait qu'ils remplissent des salles incroyables, bah, y a aucune médiatisation de leur travail, enfin en tout cas une très très légère par rapport à ce qu'ils représentent. C'est un des groupes qui vendait le plus de disques, un des groupes français qui vendait le plus de disques à l'extérieur de la France pendant très longtemps. Et je trouve qu'il y a une absence de reconnaissance beaucoup plus importante localement qu'à l'international. Et c'est vrai que du coup, quand quelqu'un va sampler Kassav, ce ne sera pas perçu comme l'hommage à une musique qui est aussi respectée que Nina Simone ou que Otis Redding, etc.
Et je trouve que le cas du zouk est hyper parlant parce que le zouk n'est pas considéré comme une musique française. Et on l'a vu, il y a eu un coup de gueule.
Comme dit Jacob de Varieux, ce n'est pas grave si ce n'est pas considéré comme français en réalité.
Alors,
je veux dire, le but aussi n'est pas nécessairement d'avoir une reconnaissance en fait, du regard institutionnel et du regard blanc. On fait pas aussi, on ne crée pas des choses, des œuvres pour pouvoir avoir la reconnaissance de personnes qui finalement, en fait, est-ce qu'elles sont même légitimes à nous reconnaître puisqu'elles ne savent même rien de cette culture. C'est un peu ce truc-là.
Non, je suis d'accord avec toi.
Et surtout, Rogaïa dit, juste pour ce que Rogaïa dit, ce qui est important, c'est que oui, Nina Simone, elle est reconnue à l'international, mais elle est d'abord reconnue par les siens. Et ça, je pense que ça, c'est une discussion limite qu'il faut qu'on ait aussi entre nous, c'est-à-dire la capacité de reconnaître nous nos propres héritages avant de demander une validation des autres. Est-ce que nous on est capable en fait de valoriser aussi nos cultures? Est-ce qu'on est capable de les valoriser, de les médiatiser comme il le faut, de les... Non, mais c'est vraiment le mot valoriser en réalité.
Parce que après, si on se replace sur le côté économique des choses, et là je relais le coup de gueule passé par plusieurs groupes autour de, en 2016, du Grand Méchant Zouk, cet événement qui a eu lieu à Paris, qui avait rempli un zénith et tout, et ils ont constaté qu'il n'avait pas été relayé par les médias dits traditionnels, et que du coup, les musiques de Zouk étaient uniquement soutenues par des médias qu'on dit communautaires, c'est-à-dire antillais, africains. Et quand je parlais du fait qu'il n'était pas considéré comme une musique française, c'est-à-dire que du coup, l'écho qu'il y a dans la société française, alors que c'est une musique qui réunit vachement de gens, qui dansent, ça fédère, tout d'un coup, elle n'a pas le même soutien économique que d'autres musiques.
Je pourrais te dire la même chose sur le rap, excuse-moi. Je pourrais te dire la même chose sur ce qu'il y a eu le mouvement du R&B en France dans les années 2000. C'est-à-dire qu'en fait, faut le dire tel qu'il est. En gros, quand les musiques ne sont pas faites par des blancs, on n'a pas le mérite à être culture musicale. C'est ça, en fait. Donc, de toutes les façons, que ce soit le zouk, que ce soit les musiques africaines, que ce soit le raï, parce qu'il y a eu tout un mouvement de raï en France, etc., que ce soit même le rap, aujourd'hui. Donc, je veux dire, la diffusion du rap aujourd'hui, il y a des limites à la diffusion du rap aujourd'hui. Toutes les radios ne diffusent pas, or que c'est le genre musical le plus écouté, le plus diffusé, et je pense qu'il rapporte le plus d'argent à l'industrie musicale à nos jours. Et pourtant, il y a toujours... Il y a toujours une espèce de stigmatisation déjà de cette culture-là, mais de diffusion. Et ça, moi, j'arrive pas à l'expliquer. Hein.
J'ai l'impression qu'il y a toujours une perception des musiques traditionnelles locales comme d'une espèce de folklore. Je me souviens que j'avais écrit il y a quelques années dans un livre que j'avais publié où je disais que les groupes français qui s'exportaient le mieux c'était Gypsy King et Kassav, et que j'avais été face à un journaliste qui m'a calvé les yeux au ciel en disant limite c'est pas ce qu'on fait de mieux. Et il y avait vraiment une espèce de côté, genre ce genre de musique c'est la musique de folklore, c'est la musique pour des mariages de personnes de basse extraction sociale. Il y a pas cette reconnaissance de la qualité musicale, du fait que Kassav, c'est quand même un groupe qui a inventé un genre musical qui est reconnu largement au-delà de nos frontières.
Qui est reconnu par Miles Davis, par les artistes afro-américains.
Absolument.
Mais c'est là où moi je dis que, bon, sincèrement, être reconnu par des gens qui sont aveugles,
et qui ont du pouvoir en même temps. C'est ça, le problème, c'est qu'ils ont du pouvoir. Et le pouvoir, ça implique aussi des revenus, ça implique une visibilité. Ça, c'est ça aussi. C'est que, bien sûr...
Après, le contexte conseil est tellement difficile parce qu'en réalité, on est obligé, d'une certaine façon, en tout cas, de s'immiscer ou d'aller chercher un tout petit peu cette validation. Mais en même temps, je veux dire, quand on parle du rap, ça fait 30 ans que le rap en France, il existe. On est en 2020, il y a les Victoires de la Musique en février, je crois, je ne sais plus. Et ils ont enlevé cette année la catégorie musique urbaine et rap. Voilà.
Et musique du monde et musique urbaine.
Et musique du monde. En gros, ils ont enlevé toutes les catégories de genres musicaux pour soi-disant faire en sorte que ça puisse ouvrir à tout le monde, etc. Bon, déjà, ça, c'est une façon... Moi, je trouve que c'est une façon assez médiocre, en fait, de parler de musique. Je veux dire, la musique... Chaque genre musical a des codes. Et en fait, il faut pouvoir juger selon les codes. Tu peux pas mettre Charles Aznavour à côté de Niska. En fait, ça n'a pas de sens. Et puis de toutes les façons, même si l'intention de dire qu'on va essayer d'ouvrir les portes pour tout le monde, bah au final, quand on voit en fait ceux qui ont été nominés pour les Victoires de la Musique, bah alors même Aya Nakamura n'a pas été nominée, c'est quand même une des plus grosses vendeuses de l'année dernière, de cette année.
Oui, mais on comprend pas ce qu'elle dit.
Quand on
Nino,
ne fait pas
Nino,
des
Nino,
erreurs
grand,
à son nom,
qui est le plus grand rappeur, enfin celui qui est le plus vendu en France, n'a pas été nominé,
Il y a des gens comme Kid Ismaël.
PNL l'année dernière, ils n'ont pas été nominés. Bon, Booba, lui, de toute façon, il a refusé. Au moins, c'est clair. Mais c'est pour ça.
Même dans des genres un peu alternatifs, je pense à Kid Ismaël. Enfin, il y a des gens comme ça, enfin qui sont vraiment novateurs, etc. Même lui n'a pas été nommé.
Dans la catégorie musique urbaine, donc j'ai fait un petit, j'ai retracé l'historique des derniers prix. Hein, donc c'était écrit en 2007 et 2019, c'était Big Flo et Oli qui a remporté
face à L'Homme Pâle
et Orelsan.
Alors que c'est l'année où l'album de Booba est sorti, de Niska.
Enfin, d'ailleurs, tu avais tweeté là-dessus, Rokaya, tu t'étais pris...
Un torrent de boue, évidemment.
sur Twitter. Donc 2018, c'était Orelsan. 2017, c'était Jules. 2016, Nekfeu. 2015, 1995. 2012, Orelsan. Bon, bref, voilà, vous voyez ce qu'on veut dire.
Mais c'est problématique. En fait, il faut dire les mots, parce qu'à un moment donné, les cérémonies qui institutionnalisent la musique et qui récompensent la musique, c'est quand même ceux qui font l'industrie de la musique. Donc c'est problématique parce qu'on parle pas à des gens qui n'ont pas de connaissances et qui savent pas, en fait. Ils savent très bien que le rap aujourd'hui, ces musiques là sont les musiques qui rapportent le plus d'argent à l'industrie, qui sont les plus populaires. Donc ils savent en leur âme et conscience, quand ils sont dans leur bureau ou dans leur réunion et à faire à nominer et entre le jury. Moi j'avais déjà parlé sur cette question là sur le fait que qui fait le jury, qui sont ces gens, en fait, qui sont les gens qui choisissent. Non, mais parce que c'est important, parce que quand on parle aussi de s'insérer dans des milieux pour faire en sorte que nos musiques puissent être machin, il faut aussi du coup... Il y a qui choisit, en fait ?
Oui, il y a un entre-soi dans l'industrie musicale.
Il y a un entre-soi qui est clairement blanc, sans le savoir, je le sais déjà, parce que quand on voit les nommés, on le sait. Et ça, ça pose problème. Il faut qu'il y ait des gens qui soient plus représentatifs de cette diversité musicale qu'il y a, ou même, c'est même pas une diversité, de l'hyper-prégnance du rap et des musiques urbaines, même si j'aime pas ce terme. Voilà.
J'aimerais qu'on écoute un extrait du speech de Jacob Devarieux qu'il a fait récemment sur son réseau social.
Il y a quelqu'un qui a décidé que peut-être que c'était un peu trop coloré, qu'il fallait revenir à quelque chose de plus blanc. Et pourtant, il me semble que Foulquier, quand il a monté les Francofolies, c'est parce que la chanson française était un peu... Elle disparaissait, on l'en voyait plus, quoi. Là, aujourd'hui, il faut qu'il y ait que ça. Alors, à moins qu'ils estiment que ce qu'on fait, c'est pas de la chanson française. Ils ont viré musique du monde, ils ont viré musique urbaine. Même dans le jury, ils ont dû faire un truc pour qu'il n'y ait plus que des blancs, quoi. Alors, je comprends, hein, c'est un pays où il y a quand même 99% de la population qui est blanche. Bon, mais enfin, quand même, la musique qui est écoutée dans ce pays, c'est pas 99% de blancs. Hein. De toute façon, c'est pas grave. C'est très bien comme ça. Ça nous filera envie de faire notre propre cérémonie dans laquelle on va mettre nos artistes. Comme ça, au moins, on sera vus. Et puis en même temps aussi, on fera nos festivals. Parce que quand tu vois le nombre d'artistes ultramarins qui sont dans les festivals français, le désert, quoi. Donc, voilà. Donc, il ne nous reste plus qu'à trouver le financement. Mais comme on est français, on devrait trouver.
Alors, est-ce qu'il faut organiser des BET Awards à la française ?
Moi, je pense que j'ai envie de dire déjà bravo, tonton Jacob Devarieux, parce que moi, c'est complètement ma façon de penser, en fait. Je pense qu'on ne peut pas être... tout le temps dans le truc de se faire valider en fait par des gens qui n'ont peut-être même pas la légitimité, qui n'ont pas la connaissance. Donc moi je suis pour, en fait je suis pour le fait qu'on fasse des choses pour nous, parce qu'en fait se plaindre chaque année des mêmes problématiques, enfin je veux dire, moi je fais des choses, en fait moi je suis sur le terrain, si on pleurniche on n'y arrive pas. Après c'est pas pleurnicher dans le sens se victimiser, c'est pleurnicher dans le sens que à un moment donné, si t'es pas accepté quelque part, mais fais ton bail.
Nous, avec quels moyens, fait... parce que c'est ce qu'il dit aussi.
Ouais, il attend les financements. Ouais.
Alors, ça, c'est toujours le.
C'est le nerf de la guerre.
C'est le nerf de la guerre, et c'est pour ça qu'on revient au début du sujet sur le fait que nous ne sommes pas égaux, et que quand un magazine comme Combini écrit un article en disant que on a le droit nous aussi de faire du rap blanc, on ne fait pas du rap de Yankee, le rap de Yankee ça veut dire clignant, bon bref.
Alors est-ce que tu veux,
c'est quoi le rap de Yankee? Ouais,
rap de Yankee,
bah sur une notion, il y a pas de sociologue du rap du Yankee quoi. C'est un terme, une terminologie qui a été inventée par les bébés 2000 sur Twitter quoi, en gros pour dire, pour parler de ce qui se passe actuellement depuis 5-6 ans, d'un rap effectivement qui est différent, que moi j'appelle un rap variété, et qui est incarné par des personnes blanches, des rappeurs blancs comme L'Homme Pâle, Romeo Elvis, Eddie Preto, Aurel San, etc. etc. Voilà, c'est un mouvement de rap qui fait que le rap est très divers aujourd'hui, parce que c'est une musique qui est devenue populaire, et donc parce qu'elle est populaire, du coup il y a une diversité, et les jeunes sur Twitter, etc. appellent ça le rap de Yankee. Donc il y a un article qui est sorti au mois de janvier, et qui dit qu'il faut cesser d'appeler ce rap de Yankee. Bon, déjà tu vas pas dire à des gamins de 17, 18 ans, de 15 ans d'un terme qu'ils ont inventé eux-mêmes de leur imagination, d'arrêter d'utiliser, parce que... par contre ce qui est intéressant c'est pourquoi ils ont créé ce mot. Pourquoi ils ont créé cette espèce de ce concept? Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend que un, oui, il y a une diversité dans le rap en France actuellement. Que deux, ces personnes-là qui arrivent sur quand même un leg culturel qui a une histoire. Le rap, c'est pas le rap, c'est une histoire. Ça a une histoire. C'est un genre musical qui a été créé par des Afro-Américains, par des Noirs américains, avec une histoire de la ségrégation, du leg de l'esclavage, etc. Avec une culture de la parole, une culture de la punchline, une culture du phrasé. Tout ça, c'est la culture noire. Il faut le dire, il faut le rappeler, c'est important. Et qu'aujourd'hui, cette culture-là soit popisée, c'est un fait. Mais que cette culture-là soit capitalisée et que ceux qui en bénéficient, mais de façon outrageuse en France, quand on regarde ce que tu disais sur les nominés des victoires de la musique, enfin des
lauréats.
Des lauréats, ouais.
Et même les nominés.
Oui,
c'est les nominés, ouais. Et les lauréats. C'est-à-dire qu'en fait...
Il n'y a aucun moyen.
Même, en fait, même dans les nominés, c'est mort. En fait. C'est mort. C'est-à-dire que, et c'est là où... Il y a un sentiment, sans doute, dans ce terme de rap de Yankee, il y a sans doute un sentiment de qu'on nous vole quelque chose, ou qu'on nous... Ou en tout cas, ou de dire plutôt... Je pense que c'est même pas où on nous vole quelque chose, c'est plutôt même une forme de dignité de dire « bah ça, c'est pas notre rap ».
Ah, mais c'est-à-dire c'est toujours cette difficulté, c'est la difficulté d'être mis dans une boîte. C'est-à-dire que, et tout à l'heure tu t'en as parlé, donc eux ils sont pas contents de cette étiquette rap de Yankee, mais est-ce que musique du monde c'est quelque chose qui est souhaitable? Est-ce que musique urbaine c'est quelque chose qu'on... Il y a des termes comme ethno-jazz, donc c'est le jazz qui est fait par des personnes qui appartiennent à un groupe ethnique.
Alors que les blancs n'ont pas d'ethnie,
ouais,
c'est
voilà, bien. Non, mais surtout que le jazz a été créé par qui déjà? J'adore, tu vois, genre, c'est ça qui est ouf quand même.
Donc du coup, de tout, la taxinomie dans la musique, quand tu vas chez un disquaire, il y a toujours eu des bacs avec des étiquettes dessus, et ces étiquettes ne correspondaient pas à ce qu'il y avait comme disque. Et déjà, ça, toi, en tant que productrice musicale, j'imagine que c'est un combat, tu l'as dit tout à l'heure. Qu'est-ce que toi, tu proposes comme...
Moi, ce que je dis souvent, c'est que la dénomination doit venir des premiers concernés. Voilà. Peu importe l'artiste, comment il veut appeler son genre musical, c'est à lui de définir son genre musical. Si Burna Boy, il estime que la musique qu'il fait, Burna Boy qui est un chanteur du nigérian, et qu'on dirait chanteur d'afrobeat, mais lui, il dit « je fais pas d'afrobeat », il dit « je fais de l'afrofusion ». Donc en fait, il faut respecter les dénominations qu'il utilise pour ses œuvres, en fait, parce que c'est un artiste. Moi, je pars d'abord de ce principe-là. Maintenant, on vit dans une société où ce n'est pas le cas, où parce que la musique est une marchandise et dans un système capitaliste, du coup, il y a des catégorisations dans la musique qui existent à cause de la vente, à cause du marketing. Donc, le terme de world music, par exemple, qui est un terme qui a été inventé par des journalistes anglais dans les années 84-85. En gros, world music, la musique du monde en français, c'est en gros la musique, toutes les musiques non blanches ou toutes les musiques non blanches et qui sont, comment dire, j'allais utiliser le mot folklore, mais pas folklore, mais par exemple, tu prends de la musique cigane, ce sera dans le bac world music. Tu vois, tu prends de la musique hongroise, j'en sais rien, traditionnelle, ce sera dans le bac world music. Donc c'est même pas une question de blanc et noir en fait. C'est même pas une question de, c'est une musique non blanche. C'est en gros toute la musique qui ne rentre pas dans le marketing contemporain de l'industrie de la musique. Voilà.
Il y a une absurdité aussi du même genre pour ce qu'on appelle la K-pop, parce que c'est en fait la K-pop, c'est aujourd'hui toute la musique qui est produite en Corée du Sud. Ouais. Après que tu fasses du rock, du rap, du reggae ou j'en sais rien, enfin que tu es K-pop.
C'est K-pop. C'est exactement ça le problème avec ces termes, c'est que elles noient les spécificités musicales, les genres musicaux, comme si les sociétés non occidentales ne pouvaient pas avoir des genres musicaux. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne peux pas dire jazz malien, il faut que tu dises, un autre mot. Ou il faut que tu rajoutes afro-jazz. Mais non, tu ne peux pas mettre afro et jazz. Pour moi, par exemple, ça, c'est une tautologie. Tu vois,
c'est redondant, exactement.
C'est-à-dire que le jazz, c'est noir, en fait, parce que ça a été créé par des noirs. Donc, tu dis afro-jazz, je ne comprends pas, en fait. C'est des jeux, tu vois. Par contre, tu peux dire, ça, c'est du jazz malien, c'est du jazz hongrois, c'est du jazz français. Tu peux dire que... après, tu peux utiliser les termes que les artistes eux-mêmes. C'est de la musique mandingue. Voilà, c'est du mbalar, c'est du soukous, c'est du zouk. Ça aussi, c'est une question de pouvoir. Qui
c'est une question
décide
de, d'ethnocentrisme aussi, c'est-à-dire qu'on a une grande capacité à voir les micro-nuances de la musique française. Ouais. Et dès lors que c'est la musique qui vient d'ailleurs, alors d'Asie, d'Afrique, tout d'un coup, c'est de la musique latina, la musique africaine, la musique asiatique. Et on ne cherche même pas, en fait, à comprendre que localement, les gens appartiennent à des générations différentes, à des pays différents.
À des genres musicaux, des ethnies différentes.
Et donc, ils ont des influences qui sont localement, qui n'ont pas... Je veux dire, tout le monde n'écoute pas... Je veux dire, en Afrique, et chaque personne écoute de la musique en fonction de ses propres goûts, et ils n'écoutent pas les mêmes artistes. Donc c'est vraiment cette espèce d'amalgame qui est encore toujours cette manière de globaliser l'autre et de soi-même se rendre particulier.
Et le terme world music, il est parfait pour ça. C'est vraiment nous et le reste du monde, quoi.
Il y a un truc qui m'intéresse aussi dans la question de l'expression musicale en France, c'est la question du R&B, la question de à la fois du R&B, à la fois des chanteuses noires. On a vu apparaître dernièrement, on a parlé d'Aya Nakamura qui n'est pas nommée aux Victoires de la musique.
Quand même, hein.
Des gens ont dû être enfermés quelque part pendant très longtemps pour ne pas s'être aperçus de sa présence sur le marché français et international. Mais cette idée selon laquelle elle dit, quand elle interviewait, elle dit que c'est ce qu'elle avait jamais vu de chanteuse noire comme elle, française, en tout cas accéder à une telle visibilité. C'est quand même incroyable que dans un pays comme la France, finalement, Aya Nakamura fasse office de première, de précurseur, alors que d'autres l'ont précédée, mais n'ont peut-être pas nécessairement accédé au même taux de popularité, même si on peut penser quand même qu'avant elle, il y a eu des princesses Erika, il y a eu des femmes qui ont fait des choses. Mais c'est vrai que voilà, on a cette mémoire déjà qui est défaillante à chaque fois. Et puis effectivement, l'idée que il en faut une tous les 10 ans, quoi.
Ouais, non, mais c'est sûr que l'émergence là de cette icône qui est devenue Aya Nakamura, j'allais dire statue grecque, tellement elle est belle et grande. Mais c'est vrai que ça nous oblige en fait à se questionner sur, mais en fait, il n'y avait pas de chanteuse noire dans le paysage musical français. C'est un truc de fou. Et en réalité, il y avait des chanteuses noires dans le paysage musical français. Tu as parlé du R&B. Le R&B, c'est une musique qui a été créée par les Afro-Américains et qui a eu beaucoup de succès dans les années 80, milieu des années 90 jusqu'aux années 2008, on va dire. Et en France, il y a eu un R&B à la française, avec plein de petites... plein de sous-genres, on va dire, du R&B. Mais ce genre, il a été façonné par des hommes et des femmes noires, en premier. Donc, il y a aussi, il ne faut pas oublier les hommes, parce qu'il y a beaucoup d'hommes, beaucoup de chanteurs, des Poetic Lovers, à des Singila, à des Corneille, des Gage, à des Matthew Stone, évidemment. Donc, les artistes masculins noirs ont façonné le R&B, mais les artistes femmes aussi. Mel Groove, Lady Lestie qui chantait et qui rappait en même temps. T'as parlé de Princesse Erika, mais ça c'est plus dans la variété, où il y avait les natifs dans les années, au tout début des années 90. Il y avait les Nubians qui faisaient plutôt de la soul. Il y avait beaucoup, beaucoup d'artistes. Il y avait Karine qui est la reine du R&B français, évidemment. Mais tous ces artistes-là, si je, voilà, je peux en égrener plein d'autres, mais tous ces artistes-là n'ont pas eu la même force de frappe que Aya Nakamura. Aya Nakamura, c'est clairement inédit en fait dans l'histoire musicale de la pop française. Et j'utilise bien le mot pop parce que ce qu'elle, elle fait, c'est de la pop, même si elle le dit dans ses interviews et que quand on écoute sa musique, il y a les influences du R&B à la française, parce qu'elle le dit que Corneille et Karine sont des artistes qui l'ont influencée. Il y a aussi de l'afrobeat, de la pop africaine qui l'a influencée, et évidemment du R&B américain. Mais c'est une artiste pop pour moi, Aya Nakamura, et c'est une artiste pop parce que justement, en fait, elle a réussi à transcender tous les genres musicaux et qu'elle est devenue populaire, en fait. C'est une chanteuse de charts, quoi. Dans les années 50, ça aurait été une idole, en fait, tu vois. Et ça montre déjà, un, sur ce que je disais, sur le fait qu'il y a une forme d'amnésie qui existe, qui est très spécifique quand même, moi je parle en tant que femme noire quand même, aux noirs, en tout cas en France, de leur histoire, de leur rapport. L'apport culturel, l'apport politique, tout leur apport qu'ils ont pu créer dans l'histoire de ce pays. Et même dans la musique, il y a une forme d'amnésie. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a été fait par les personnes, par les artistes noirs dans la musique en France depuis 30, 40, 50 ans tu demandes à des gens, les gens, ils oublient. Et, tu vois, et c'est important, en fait, de rappeler tout ce qui a été fait avant Aya Nakamura et aussi les artistes masculins. Et c'est aussi, du coup, important de dire pourquoi il n'existait plus. Pendant 20 ans, il n'existait plus. Donc, quand on parle spécifiquement du R&B, donc c'est eux qui l'ont façonné, c'est eux qui l'ont créé. Et puis, comme le genre est devenu populaire, comme tous les genres et comme tout ce qui est capitalisable, l'industrie a popisé, mainstreamé le genre musical, tout en étant un genre musical qui était extrêmement dénigré. Hein, le R&B à la française, c'était très dénigré, même encore aujourd'hui. Il y a même encore un complexe, encore aujourd'hui. Quand tu dis que tu écoutes du R&B, on va te dire, ah, tu vois. Bon, ça, pour moi, c'est plus le fait d'avoir très peu de culture musicale en France, en réalité. Et les gens ne savent pas ce que c'est que réellement le R&B, donc voilà.
Mais c'est pas seulement ce caractéristique de la musique, hein, parce qu'on voit dans les luttes, par exemple, qu'on oublie tous les nouveaux mouvements noirs, mouvements
maghrébins.
Ils oublient tout le temps qu'il y a eu des aînés qui ont fait des choses qui ont
disparu. C'est ça le vrai défi. Ouais. Après, c'est une autre discussion. Mais je pense que, comme aujourd'hui, toutes ces questions-là sont importantes, on parle des questions raciales, etc., se rappeler, en fait, ce qui a été fait avant. Je veux dire, une Aya Nakamura, elle existe aussi parce qu'il y a eu les Mel Groove, les Nubians, il y a eu Native, etc., Princesse Erika, parce que 2 ans avant, il y a eu Shai, la rappeuse Shai, la Belge, qui s'est pris toutes les insultes misogynoires. Moi, je me souviens, à l'époque, j'avais fait un post pour dire, voilà, pour une fois qu'il y a une chanteuse, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de rappeuse noire dans le game, elle se prend des insultes, des commentaires, etc. Bon, ça, c'était juste 2 ans avant l'arrivée d'Aya Nakamura. Et puis aujourd'hui, maintenant, il y a d'autres chanteuses. Il y a la chanteuse belge, là.
Luzé, Ando Yakuza.
Voilà, il y a Izeut, je ne sais jamais s'il faut dire Izeut. Donc, toutes ces artistes-là, elles vont venir aussi parce que Aya a pu... Mais bon, même Aya, enfin, je veux dire, c'est galère, en fait, pour elle. Déjà, elle n'est pas nominée, tu vois. Donc, sur les médias...
Elle fait pas de couverture de magazine.
Elle fait pas de couverture de magazine. Elle a beaucoup moins de chance, etc. Et puis, d'ailleurs, sa reconnaissance est plus à l'international, même, parce que c'est le New York Times qui l'a mis en tant que jeune les plus influents en Europe. Bon, il faut aussi passer un peu par l'extérieur pour pouvoir être validé ici. Mais en tout cas, moi, je suis contente en tout cas de savoir que des petites filles, en tout cas, si elle, Aya Nakamura, n'a pas pu grandir avec des figures de femmes noires, chanteuses, en tout cas les petites filles noires d'aujourd'hui, elles peuvent grandir avec une Aya Nakamura.
Alors avant qu'on termine, j'ai une petite question parce que le mot est revenu à plusieurs reprises dans le podcast. Est-ce que vous savez d'où vient le mot dénigrer ?
Il y a un N-word dedans.
Ouais.
Oh
en fait, ouais, ça vient du latin niger, hein, et dénigrare en latin, ça veut dire rendre noir. Et donc, voilà, juste pour que vous le sachiez. Voilà, parce que je n'ai pas fait la réflexion la dernière fois qu'on l'avait employé, je crois que c'était avec Fatou Ndiaye, et en fait c'est un mot qui est très très connoté, qui veut dire, dénigrer, ça veut dire mépriser d'une certaine manière,
ouais,
et donc rendre noir.
D'accord, je ne savais pas, c'est l'origine latine, ouais. Tu vois, on apprend tout.
Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Ouais. On est à la fin de l'épisode avec Bintou Silla sur l'appropriation culturelle dans la musique. C'était vraiment hyper passionnant.
Ouais, je plein pense de que dire. Ouais, on aurait pu passer une heure de plus. Malheureusement, le temps nous est compté.
Merci pour ton expertise sur la question et je
merci
trouve que là, elle est vraiment prouvée.
Alors n'hésitez pas à nous faire part de votre opinion sur l'échange que nous venons de mener. Si vous kiffez un son mais qu'il dépouille un ou une artiste, une culture, dites-nous tout. Si vous êtes dégoûté de cette appellation de rap de Yankee et que vous voulez protester contre la manière dont on en a parlé, n'hésitez pas. Vous pouvez nous écrire à kiftaras@binge.audio ou nous contacter sur les réseaux sociaux en suivant le @kiftaras sur Twitter et sur Facebook. Donc c'est la page kiftaras ou sinon avec le hashtag kiftaras sur les autres réseaux sociaux. Bintou Silla est aussi sur Instagram, sur Twitter et sur Facebook. Donc vous pouvez aussi la suivre. Vous pouvez l'écouter dans Piment sur Radio Nova. C'est très très intéressant, une conversation sur la pop culture avec beaucoup beaucoup de musique. Pop culture afro évidemment avec beaucoup de musique. C'est très très chouette.
Guettez le livre de Piment, Le Dérangeur, petit lexique en voie de décolonisation qui sortira le 2 avril 2020 aux éditions Hors d'Atteinte. Et Kif Taras aujourd'hui est un podcast de Binge Audio réalisé par Adèle Itel El Madani. Merci, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de Kif Taras. Merci Rokaya.
Merci Grace.
Merci Bintou.
Merci pour l'invitation.